délibération 7, classement du réseau de chaleur. Donc il y a une suspension de séance, puis Colomb, pour que vous puissiez présenter le diaporama.
Bien, oui, on a un diaporama à vous présenter, donc je demande de faire une suspension de séance pour demander à notre ami Cyrine Garnier, qui est notre ingénieur thermicien à la ville de Mâcon, qui a fait un boulot remarquable d'ailleurs pour la préparation de ce rapport très, très copieux et très important pour le futur, pour le chauffage urbain. Je lui demande donc de présenter de ce diaporama et on viendra après la délibération et aux questions. On peut lui donner un micro, ce sera plus facile.
Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc effectivement ce soir il est proposé d'acter le classement du réseau de chaleur et d'approuver les conclusions du schéma directeur. Alors pour bref rappel, le réseau de chaleur de Mâcon donc, est une propriété ville de Mâcon et la gestion et l'exploitation du réseau de chaleur a été confiée au 1er juillet 2017 à la société Mâcon Énergie Service, donc via un contrat de délégation de service public. Alors le premier point qui est donc le classement du réseau de chaleur, dans un premier temps je vais déjà vous expliquer ce que signifie le classement d'un réseau de chaleur. Donc tout simplement un réseau de chaleur classé, c'est simplement un réseau de chaleur sur lequel il y a une obligation de raccordement pour certains bâtiments et selon certaines règles bien spécifiques, je reviendrai sur les règles après. Donc les bâtiments concernés sont toutes les nouvelles constructions, les extensions de bâtiments donc de plus de 30% par rapport à la surface d'origine ou pour les extensions de plus de 150 mètres carrés. Et enfin, les bâtiments qui font l'objet de rénovations qui nécessitent le remplacement des moyens de production de chaleur. Alors, un simple petit rappel du contexte réglementaire. La notion de classement de réseau de chaleur est apparue dans les années 80. Au départ, l'idée, c'était de laisser la possibilité aux collectivités de rendre le raccordement au réseau de chaleur obligatoire. Donc, ça passait par une délibération et donc une volonté forte de la part des collectivités. La loi énergie-climat du 8 novembre 2019 vient inverser un petit peu la tendance, c'est-à-dire que cette fois-ci, c'est plus aux collectivités de délibérer pour classer un réseau de chaleur. Les réseaux de chaleur qui disposent d'une source de chaleur supérieure à 50% d'énergie renouvelable deviennent automatiquement classés à compter du 1er juillet 2023. Simplement, les règles d'application de classement sont définies dans un décret daté du 26 avril 2022. Pour faire un bref résumé des règles de classement, donc comme je l'ai dit, tous les réseaux de chaleur qui disposent donc d'une chaleur à plus de 50% d'énergie renouvelable sont automatiquement classés. Et ces réseaux sont listés dans un arrêté ministériel. Donc, ce qu'il faut savoir sur Mâcon, c'est que le réseau de chaleur dispose d'un taux d'énergie renouvelable de l'ordre de 60%. Il est donc bien listé dans l'arrêté ministériel. Il existe une possibilité de dérogation pour les collectivités. Il est possible de déroger au classement automatique, mais il faut une délibération motivée, donc il faut justifier son choix. La loi prévoit des règles de classement par défaut. La première règle qui définit un périmètre de classement, le périmètre de classement par défaut, c'est le périmètre de la DSP. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le contrat de délégation de service public sur Mâcon dit que le périmètre, c'est la totalité du territoire de Mâcon, plus les extensions sur la commune de Charnel et Mâcon et de Sensé. Et la deuxième règle de classement par défaut, c'est une notion de puissance, c'est-à-dire que le seuil à partir duquel il y a obligation de raccordement a été fixé à 30 kW. Alors pour se faire une idée, 30 kW, c'est un petit bâtiment résidentiel de l'ordre de 4-5 logements à peu près. Mais la loi propose et pousse surtout les collectivités à définir leurs propres règles de classement. On viendra dessus après. Il y a une petite procédure à suivre pour définir ses propres règles. Donc vous la voyez affichée. La première chose, c'est bien évidemment de proposer des règles de classement. Donc il y a eu évidemment concertation entre la ville de Mâcon et donc Mâcon Energy Service, le délégataire de la ville. Et les règles de classement sont notamment basées sur le schéma directeur que je vous présenterai après. Pour acter les règles de classement, il faut un avis de la CCSPL et un avis favorable a été rendu le 1er juin dernier. Suite à ça, il faut une délibération du conseil municipal, d'où la présentation actuelle. Et enfin, la délibération et ses annexes seront annexées au plan local d'urbanisme. Il est proposé d'acter les règles suivantes. Il est proposé en fait de découper le territoire mâconnais en trois zones. Sur chaque zone, il y aurait des règles de classement différentes. Une première zone qu'on pourrait appeler centre-ville. Donc le seuil de puissance a été porté à 120 kW. Pour l'équivalence, c'est à peu près 15-16 logements. Donc là, l'idée, c'est d'aller chercher ce qu'on appelle de la densification, c'est-à-dire des bâtiments de moyenne taille situés à proximité du réseau. La deuxième zone, qu'on pourrait appeler extension, porte le seuil de puissance au-delà duquel il y a obligation de raccordement à 200 kW, où là, l'idée, c'est d'aller développer et étendre le réseau de chaleur pour aller chercher des bâtiments de grosse taille. Et enfin, la zone 3, qu'on pourrait appeler non prioritaire, c'est-à-dire que c'est des zones où on n'a pas identifié d'intérêt particulier, tant technique qu'économique, pour développer le réseau de chaleur, parce que, par exemple, on est trop loin du réseau pour qu'un raccordement soit intéressant. Et donc là, l'idée, c'est simplement de ne pas passer à côté de très gros bâtiments situés à proximité du réseau. Donc le seuil est proposé à 250 kW et une distance par rapport au réseau inférieure à 200 mètres. Pour illustrer ce zonage, on va vous présenter un petit plan. Alors l'idée, c'est pas d'entrer dans les détails, hein, mais c'est pour comprendre la logique. Donc la zone centre-ville, où on va chercher, comme je vous ai dit tout à l'heure, de la densification, c'est le cœur du réseau, c'est le centre-ville un petit peu élargi. Ensuite, la zone extension, là où on cherche à se développer, c'est en fait, vous avez deux zones, extrémité, enfin au nord du centre-ville et juste au sud, en rose violacé. C'est là où a été identifié un fort intérêt pour développer le réseau de chaleur. Et donc la zone 3 non prioritaire, c'est ce que vous avez à l'extrémité nord et à l'extrémité sud du territoire. Alors, quand on parle d'obligation de raccordement au réseau de chaleur, en fait, c'est pas tout à fait ça. La loi dit qu'il y a obligation d'étudier le raccordement au réseau de chaleur pour tout projet de construction ou de rénovation. Et il existe en fait quatre possibilités de dérogation à cette obligation de raccordement. La première porte sur des critères techniques, c'est-à-dire si le réseau de chaleur, par exemple, ne correspond pas à des critères techniques exigés pour un raccordement. On va prendre un exemple très simple, un industriel qui souhaite s'implanter sur Mâcon, implanté dans une zone à l'obligation de raccordement. Imaginons que cet industriel a un besoin de chaleur, en parlant de température pour faire simple, imaginons qu'il a un besoin de chaleur à 150 degrés, le réseau de chaleur étant plafonné à 110 degrés, il y a incompatibilité entre les caractéristiques du réseau et les caractéristiques du process industriel, c'est donc une possibilité de dérogation. La deuxième possibilité de dérogation, c'est une notion de délai. Si le délégataire n'est pas en mesure de raccorder un bâtiment dans un délai exigé par un porteur de projet, c'est une possibilité de dérogation, sauf si le délégataire est en mesure de proposer une solution transitoire. La troisième solution porte plutôt cette fois-ci sur un aspect environnemental. Tout simplement, si un porteur de projet est en mesure de proposer une solution avec un taux d'énergie renouvelable supérieur à celui du réseau, donc pour rappel, le réseau de chaleur, c'est de l'ordre de 60% d'énergie renouvelable, c'est une possibilité pour ne pas se raccorder. Et enfin, le dernier critère de dérogation est financier, celui-ci. La loi dit que s'il y a disproportion manifeste du coût de raccordement et d'utilisation du réseau par rapport à une autre solution, c'est une condition de dérogation. Pour faire très simple, parce que c'est un petit peu abstrait comme ça, si vous avez un bâtiment dans lequel il y a un besoin de chauffage et de climatisation, vous pouvez par exemple imaginer une solution qu'on appelle réversible, qui fait du chaud et du froid. C'est-à-dire que vous investissez dans un équipement qui fait les deux. Si vous souhaitez vous raccorder au réseau de chaleur, vous allez donc payer des frais de raccordement au réseau de chaleur. Et en parallèle, il va falloir acheter, payer un équipement qui va vous faire de la climatisation. Le fait d'acquérir deux équipements peut faire que du coup les coûts seront complètement disproportionnés par rapport à une solution commune. Et donc c'est une possibilité de dérogation. Le deuxième sujet, le schéma directeur du réseau de chaleur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un schéma directeur, en fait, c'est une étude qui permet de projeter le réseau de chaleur à horizon 10 ans. Donc, il y a différentes thématiques qui sont abordées. Donc, l'idée de base, c'est de faire un état des lieux de l'existant, donc d'un point de vue technique, d'un point de vue juridique contractuel, d'un point de vue économique, par exemple. Suite à ça, l'étude porte sur le potentiel développement et extension du réseau de chaleur. Et c'est notamment cette étude-là qui a permis de définir les zones de classement que je vous ai présentées précédemment. Ensuite, l'étude porte sur les potentiels développements de sources d'énergie renouvelables ou de récupération. Et suite à ces études-là, on étudie l'évolution du taux d'énergie renouvelable et du prix de la chaleur, donc à horizon 10 ans. À partir de ça, on élabore des scénarios. Donc on part d'un état des lieux existant. Donc, pour faire simple, le contrat de délégation de service public est actif jusqu'au 30 juin 2042. Aujourd'hui, les moyens de production de chaleur donc, sont deux moteurs gaz cogénération. Alors, des équipements de cogénération, c'est tout simplement des moteurs qui fonctionnent à gaz, qui produisent de la chaleur et de l'électricité. Le gros intérêt, c'est qu'avec un même équipement, on est capable de valoriser et de la chaleur et de l'électricité qu'on va revendre à EDF. Ce qu'il faut savoir, c'est que les contrats qui encadrent ces cogénérations, aujourd'hui, n'existent plus. Donc le contrat qui a été acté en 2017, donc court jusqu'en 2029, donc l'électricité produite par les systèmes de cogénération seront rachetées par EDF à des conditions déjà prévues jusqu'en 2029. À compter de 2029, aujourd'hui, il n'y a plus de cadre. Aujourd'hui, on est incapable de savoir comment va être rachetée l'électricité. En tout cas, il n'y a plus d'obligation pour EDF à racheter l'électricité. Il est donc prévu qu'à compter du 1er janvier 2030, la cogénération s'arrête. Ensuite, nous avons deux chaudières bois de 10 MW chacune. Et pour les compléments à pointe, nous avons quatre chaudières gaz, dont deux mixtes gaz-fuel. C'est simplement pour du secours. Concernant le réseau en lui-même, il faut savoir que le réseau fait à peu près 42 km. Il y a 309 bâtiments raccordés, ce qui représente une puissance souscrite de 76 MW et une vente de chaleur de 111 000 MW par an. Ce qui est important de retenir, c'est le taux d'énergie renouvelable, je vous avais dit tout à l'heure, proche de 60%, on est à 58%. Et le prix moyen de la chaleur est de 115 euros par mégawattheure. Il est attendu déjà une hausse du prix de la chaleur à compter du 1er janvier 2030, justement du fait que la cogénération va s'arrêter. Il a été étudié un premier scénario qui, en fait, n'est pas tout à fait un scénario, c'est une simple projection de la situation existante jusqu'au 31 décembre 2029. L'idée, pendant cette phase-là, c'est d'essayer d'étendre au maximum le réseau de chaleur. Vous allez voir l'intérêt après. Donc, il a été envisagé de développer, enfin de construire un peu plus de 6 km de réseau pour aller chercher une petite quarantaine de nouveaux bâtiments. Ça représente une évolution en termes de besoins de chaleur, de vente de chaleur de l'ordre de 19-20%. Les moyens de production actuels et que je vous ai présentés seront conservés pendant cette période-là. Le gros intérêt, c'est que en augmentant le nombre de bâtiments raccordés, en fait, on va simplement mutualiser l'amortissement, enfin des charges fixes, et donc ça va simplement induire une baisse du prix de la chaleur. Donc, vous voyez, à hauteur de 92 euros par mégawattheure, ce qui n'est pas du tout négligeable. En contrepartie, le taux d'énergie renouvelable devrait diminuer à hauteur de 53%. Pourquoi il devrait diminuer? Tout simplement, aujourd'hui, les moyens de production de chaleur sont organisés de façon à ce que la cogénération fonctionne de base. Ensuite, on complète avec le bois, et aujourd'hui, le bois a été dimensionné pour fonctionner quasiment à 100% de ses capacités. Et au-delà, on approvisionne le réseau via du gaz. Donc, si on vient à développer le réseau de chaleur, on va arriver très vite aux capacités maximales de nos chaudières bois, et donc tout le développement supplémentaire viendra du gaz. À partir de 2030, il est cette fois-ci proposé deux scénarios différents. Le scénario numéro 2, qui en fait s'appuie sur le développement qui a été prévu sur le scénario numéro 1. À compter de 2030, la cogénération s'arrête, comme je vous l'ai dit, et il est proposé de maintenir les moyens de production actuels, c'est-à-dire le bois et le gaz. L'intérêt, c'est que la cogénération va laisser de la place au bois, ce qui devrait permettre d'augmenter le taux d'énergie renouvelable à 61%, et ça devrait permettre de contenir le prix moyen de la chaleur à 113 euros du mégawattheure. En gros, on reviendrait quasiment au niveau de prix actuel. Et le troisième scénario, lui, s'appuie également sur le développement envisagé en scénario 1, également un arrêt de la cogénération, et en plus des moyens de production de chaleur actuels, il est proposé de construire une nouvelle chaufferie bois de 8 MW. Pour rappel, actuellement, on a 2 fois 10 MW. Et là, le gros intérêt, c'est de minimiser le prix moyen de la chaleur, donc à hauteur de 105 euros par mégawattheure, et surtout de faire évoluer le taux d'énergie renouvelable à un niveau proche de 76%. Donc, je vous propose un petit récapitulatif des différents scénarios. Donc, actuellement, on a un taux d'énergie renouvelable à 58%, un prix moyen de la chaleur à 115 euros du mégawattheure. À horizon 2029, le taux d'énergie renouvelable devrait perdre 5 points. Par contre, le prix de la chaleur devrait très largement diminuer. Et enfin, deux scénarios proposés à compter de 2030. Un scénario qui prévoit un simple arrêt de la cogénération qui permettrait d'avoir un taux à 61% d'énergie renouvelable, 113 euros du mégawattheure. Et un scénario 3 qui là consiste à construire une nouvelle chaufferie biomasse avec un taux d'ENR à 76% et un prix de la chaleur à 105 euros. Comme vous l'avez compris, le scénario qui semble plus favorable est le scénario numéro 3. Donc il est proposé ce soir, pas forcément d'acter la construction d'une nouvelle chaufferie, mais comme je vous l'ai dit, le schéma directeur, c'est une projection. Donc il est donc proposé de poursuivre des études, de faire des études complémentaires pour valider le programme de développement et surtout de valider la faisabilité technique, le dimensionnement de la puissance et le calendrier de mise en œuvre de la chaudière biomasse.
Merci Cyril de cette présentation qui était précise, complète, concise, mais je pense suffisamment complète pour la compréhension de tous. Je vais lire le rapport et comme on a l'habitude de faire, vous serez possible bien entendu de poser des questions si toutefois vous en avez. Alors, ce rapport, donc, comme on vient de vous lire, porte sur le classement du réseau de chaleur, ainsi que l'approbation du schéma directeur du chauffage urbain, et les décisions qui vous sont proposées, c'est de définir le périmètre de classement appelé périmètre de développement prioritaire, selon le zonage que l'on vous a passé, à savoir zone 1, centre-ville, avec une puissance souscrite supérieure ou égale à 120 kW, La zone 2, qui serait donc une extension essentiellement au sud, avec une puissance souscrite supérieure ou égale à 200 kW, et la zone 3, non prioritaire, puissance souscrite supérieure ou égale à 250 kW, et distance par rapport au réseau de chaleur existant inférieure ou égale à 200 mètres. Donc la délimitation de chaque zone a été précisée sur le plan que vous a été remis en annexe. Il s'agira donc de valider aujourd'hui les conclusions du rapport de mise à jour du schéma directeur tel que joué en annexe. Voilà ce qu'il en est de ce rapport. Je vous écoute si toutefois vous avez des questions.
Monsieur le maire, chers collègues, les élus macon-citoyens se félicitent de cette évolution législative et nous avons une question très simple. La collectivité a-t-elle prévu à terme de mettre en place des aides et des incitations financières pour le financement des études pour les particuliers et les lotisseurs, pour le rattachement au réseau de chaleur, notamment lorsque les travaux échappent à une déclaration préalable de travaux? Ça avait d'ailleurs été posé en commission, dans le cadre de réhabilitation intérieure qui ne nécessite pas de modification ni de permis de construire ni de permis de démolir. Voilà, merci pour votre réponse.
Non, c'est pas actuellement prévu qu'il y ait des aides pour inciter à mettre à des branchements sur ce réseau de chaleur. Alors, quand vous parlez de particuliers, vous savez que 120 kWh, c'est déjà au moins une dizaine de logements. Donc une dizaine de logements, c'est rarement un particulier qui le fait. Il s'agit plus la plupart du temps d'un promoteur. Et là, il s'agit de l'intégrer dans son schéma de construction. parce qu'on est bien, mais nous sommes bien d'accord que ce schéma et ce dossier est préparé avec une obligation dans l'avenir pour tous les pétitionnaires au niveau des permis de construire de réfléchir et d'étudier le réseau de chaleur dans ce cadre-là, avec les indications qui vous sont fournies au niveau de la puissance dans chaque permis. Voilà, c'est tout, c'est ainsi qu'il est décidé. Puis c'est la règle qui se passe de partout. Hein, c'est pas précis à Mâcon.
Donc vous avez déjà un peu une projection du nombre de raccordements possibles sur chacune des trois zones. J'imagine que vous avez déjà commencé à voir un peu vers quoi on allait tendre. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, elle est sur le schéma directeur et notamment la construction d'une troisième chaufferie de 8 mégawatts. Et ma question est la suivante. Donc, j'ai bien compris que ceci était un projet à l'horizon 2030. Notre DSP va jusqu'à 2042. 42, c'est ça ? Oui, d'accord. Donc, ça fait 12 ans. Donc, est-ce que cette chaufferie, elle va rentrer dans ce cadre de DSP, là ? Parce que l'équilibre financier du contrat sur 12 ans, vous voyez la réflexion que j'ai, en fait. Est-ce que c'est pensé de cette manière-là, ou alors est-ce qu'on va remettre les choses à plat et que...
Non, écoutez, de toute façon, dans le cadre de la chaufferie actuelle, elle est dimensionnée, ça vous a été expliqué, avec une production de chauffage d'énergie plutôt avec le bois qui est limité. Donc le principe, il est là. Donc c'est de faire, il nous faut bien jusqu'à 2030 pour mettre en place deux nouvelles chaufferies. On vous a dit de 8 mégawatts. Ça, c'est indispensable. De façon qu'en 2030, on soit opérationnel pour justement pouvoir produire de l'énergie avec une extension du réseau qui, effectivement, c'était votre première question, a bien été réfléchi avec un nombre de logements qui est assez considérable, d'ailleurs, je dois dire, et qui va être même... D'ailleurs, ça sera sur la ville de Mâcon, vous avez dû l'entendre, qu'il y en aura également une extension au niveau de notre ville voisine à Charnay-lès-Mâcon. Donc, il s'agit bien là d'avoir une densification de notre réseau pour pouvoir justement bénéficier d'optimiser notre réseau et nos installations de cette chaufferie et de cette nouvelle chaufferie, ce qui nous permet d'envisager une baisse de prix. Et donc jusqu'à 2042, tous les prix qui vous ont été indiqués, c'est bien dans ce schéma-là pour finir à 2042, et ensuite on verra bien s'il s'agit de relancer une délégation ou enfin je serai pas là pour la défendre, de toute façon.
Pour répondre à votre deuxième question, c'est facile, c'est une DSP, donc c'est forcément le délégataire qui va financer l'usine, la nouvelle chaufferie. Mais ça va s'amortir sur plus longtemps. Et si par là, en 2042, lorsque je présiderai le conseil municipal, si j'envisage de redonner une délégation, ça partira en délégation de service public. Si ça prend en régie, c'est repris en régie. Et si ce n'est pas la même société, ça sera repris à la valeur nette comptable. C'est prévu par les textes de loi. Mais ce n'est pas un amortissement sur 10 ans, ça fera un coût de la chaleur qui sera énorme.
Et d'ailleurs, c'est là où on voit que notre chauffage est un chauffage déjà vertueux, hein, par rapport à toutes les autres, qui économiquement intéresse maintenant un nombre d'usagers, d'abonnés de plus en plus importants, et notamment même des industriels, hein, où on a il y a bien sûr des administrations, il y a la préfecture, il y a qui s'est raccordé au réseau de chaleur, mais on sait aujourd'hui qu'il y a des études et il y a des sociétés qui sont en cours de justement de recherche pour un raccordement, il s'agit de Metso, par exemple, mais je pourrais vous en citer d'autres. Donc, il s'agit bien là, aujourd'hui, d'un développement, je dis, plus vertueux en termes d'environnement, et puis surtout, aussi, plus économique pour tous les usagers, qu'ils soient industriels, administration ou, bien entendu, particuliers.
Bien, je vais mettre au voie cette délibération. Quels sont ceux qui s'y opposent ? Personne, qui s'abstiennent, personne. Elle est donc votée à l'unanimité. Merci.